Par contre, il y a une difficulté qui s'est greffée parce que le Sénégal ne fait pas partie des pays qui sont autorisés à accéder dans l'espace Schengen. Et naturellement, le gouvernement sénégalais avait réagi en faisant valoir également une décision de souveraineté de fermer les frontières du Sénégal aux pays de l'espace Schengen. Actuellement, je pense que les deux parties sont en train de négocier et nous espérons qu'il y aurait très bientôt une solution convenable pour tout le monde.
D'accord. Alors, Monsieur Kassili, l'heure est à la reprise hein, des activités touristiques. Pensez-vous qu'il y a encore des mesures à prendre au niveau du gouvernement avant cette relance de l'activité touristique?
Alors déjà, ce qui serait important, c'est que le gouvernement nous envoie un message clair. Parce que jusqu'à présent... Et je ne parle pas uniquement d'un point de vue touristique, mais également d'un point de vue sanitaire. Les informations qui nous arrivent sont pas très précises, voire parfois très contradictoires. Donc même pour nous, professionnels du tourisme, pouvoir faire des prévisions et pouvoir réorganiser le travail pour un vrai redémarrage, c'est aujourd'hui assez compliqué. Donc je pense que déjà, si on pouvait avoir une information plus précise et plus claire, ça serait nécessaire, très important. Ça met en danger, comme disait M. Savali tout à l'heure, cette situation met vraiment en danger beaucoup d'emplois dans beaucoup de pays, dans un secteur quand même qui est porteur de richesses, parce que le tourisme, malgré tout, a une activité qui produit beaucoup de richesses dans beaucoup de pays du monde.
Alors, l'Union européenne, en tout cas l'espace Schengen, n'ouvre ses portes qu'à 14 pays, hein, dont 4 pays africains. Vous pensez que c'est assez peu ou peut-être c'est une décision assez sage, mesurée?
Je pense que c'est pas le nombre de pays qui est en question. C'est-à-dire, moi personnellement, je trouve qu'on devrait ouvrir davantage les frontières. En revanche, je trouve que les contrôles qui sont faits ne sont pas assez stricts et ne sont pas assez structurés et qu'il serait préférable de pouvoir ouvrir davantage de frontières pour faire répartir l'activité tout en ayant la précaution de pouvoir faire des contrôles sanitaires aux frontières pour être certain que cette pandémie ne se reproduise pas.
D'accord. Monsieur Sabali, c'est vrai que le secteur du tourisme attendait avec impatience cette réouverture des frontières, cette reprise des vols internationaux, mais on est toujours au milieu d'une pandémie. Est-ce que des pays comme le Sénégal sont prêts à accueillir des touristes?
Si tant est que on applique rigoureusement le protocole sanitaire, il n'y a pas de raison que le Sénégal ne puisse pas accueillir des touristes, parce que nous avons déjà mené une concertation entre le ministère du Tourisme, le ministère de la Santé et les acteurs de la profession pour mettre en place un protocole pour préserver d'éventuels cas de pandémie. Donc il n'y a pas de raison que le Sénégal ne puisse pas accueillir une clientèle internationale, d'autant qu'il y a d'abord un premier contrôle au niveau des pays émetteurs, et il y a un contrôle au niveau de l'entrée au Sénégal, et au troisième contrôle au niveau des réceptifs eux-mêmes. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune raison pour que le Sénégal ne puisse pas accueillir une clientèle internationale.
Mais vous êtes d'accord qu'il y a tout de même un travail de sensibilisation et d'éducation à faire au niveau du public, quand on connaît un peu la psychose qu'a créé ces fameux cas importés?
Mais les cas importés proviennent essentiellement de l'Europe. Ce n'est pas à l'intérieur du Sénégal.
Absolument. Et ces touristes pourraient venir de l'Europe.
Si on prend proportionnellement par rapport aux pays émetteurs, le Sénégal, en termes d'infection, est naturellement en deçà même de ces pays-là. Maintenant, en termes de maîtrise de la pandémie, il est certain qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un peu de difficultés au niveau du Sénégal, mais ça n'a rien à voir avec au niveau des sites touristiques ou une autre zone en particulier, qui n'est pas une zone très affectée. Donc, parce que l'épicentre de la pandémie, c'est à 54%, c'est Dakar, et les touristes ne vont pas à Dakar, ne traversent pas Dakar. Mais par conséquent, Thiès, en tout cas Sali, n'est pas du tout concerné par la propagation de la pandémie. Et donc, les hôtels ne sont pas touchés.
Donnez-nous une idée de comment ces mesures de restriction ont impacté le tourisme en Europe.
Ben, ce qui a été compliqué, c'est que même au niveau de l'Union européenne, il n'y a pas eu une coordination d'information à ce niveau-là. Donc, chaque pays, même s'il est vrai qu'il y a des pays qui ont été touchés à différents niveaux par la pandémie, mais chaque pays a adopté une politique locale interne. Et donc, c'était très difficile de pouvoir harmoniser tous les discours entre les différents pays. Moi, je suis italien, j'habite en France. Ne serait-ce qu'entre l'Italie et la France, c'était vraiment pas simple. Au départ, il y avait de la quarantaine pour certaines régions, pas pour d'autres régions à l'intérieur du même pays. Donc voilà, c'est devenu vraiment compliqué. Maintenant qu'on est passé, disons, dans une phase successive, parce que la pandémie est en train de s'étendre petit à petit un petit peu partout, elle n'a pas totalement disparu, donc il faut rester malgré tout vigilant pour éviter qu'il y ait un fort redémarrage prochainement. Mais les gestes de prudence, disons, ont été adoptés dans la plupart des pays et on commence à avoir un discours un petit peu plus global. Mais pour le moment, c'est encore quelque chose de compliqué à mettre, à pouvoir acter au quotidien.
D'accord. Et vous, Monsieur Sabali, comment est-ce que le secteur du tourisme est affecté par cette nouvelle crise sanitaire? Je me rappelle qu'au Sénégal, le secteur avait aussi été très touché par la crise provoquée par Ebola, même si le pays avait eu, je crois, un seul cas. Aujourd'hui, comment est-ce que vous sentez cet impact avec le Covid?
La différence, c'est que Ebola, il y avait un peu d'activité. Avec le Covid-19, c'est l'arrêt total. Il n'y a pas d'activité. En dehors de certains réceptifs qui ont été réquisitionnés par l'État, les autres étaient obligés d'arrêter, de cesser toute activité, parce que d'abord, c'était impossible, avec le couvre-feu qui démarrait à 20h. Donc, nos employés devaient rentrer au plus tard à 18h. Donc, on ne pouvait pas, techniquement, continuer à exploiter nos établissements. Donc, on est à l'arrêt total depuis lors.
Vous pouvez estimer un manque à gagner pour l'industrie touristique au Sénégal, par exemple?
Mais nous avions fait d'abord une première évaluation des 3 mois d'inactivité, parce que c'était prévu pour 3 mois. Et nous avions évalué à 240 milliards de pertes pour le secteur.
Et je sais que le gouvernement a mis en place un fonds spécial pour aider les populations et les entreprises. Est-ce que vous sentez l'aide de l'État sénégalais, par exemple?
On a toujours tendance à dire que l'aide n'est pas suffisante. On dit d'abord merci, parce que sans cela, ça aurait été plus compliqué encore. Sauf que c'est un crédit. C'est un crédit, il est vrai, avec des conditions assez douces, à 3,5%. C'est quand même rarissime. Ensuite, avec un différé de 2 ans, et on est allemand sur 8 ans, disons que c'est quand même pas lourd. Et nous remercions l'État qui a voulu nous accompagner. Et nous pensons qu'il nous faut encore un accompagnement supplémentaire, parce que la pandémie, ce qu'on avait déjà dit à l'État dès le départ, ça ne peut pas durer 3 mois, il y aura une inactivité au moins 6 mois. Et nous considérons d'ailleurs que d'abord la saison 2020 est totalement terminée et que la saison 2021 est également très compromise compte tenu du prolongement de cette situation pandémique au Sénégal et à l'international.
Et vous, M. Kassili, est-ce que vous pouvez expliquer rapidement à nos téléspectateurs comment se passe aussi la situation dans vos rapports avec l'État en termes d'assistance ou en tout cas d'appui au secteur touristique?
Alors, l'État français a mis en place un certain nombre d'aides qui sont néanmoins insuffisantes, malheureusement, et qui sont surtout très difficiles à obtenir. Donc, ce n'est pas forcément simple à pouvoir en bénéficier. Aujourd'hui, comme disait mon confrère, il est difficile de pouvoir avancer parce que même ici, la saison est terminée. On vise beaucoup sur de la toute dernière minute, mais c'est très aléatoire, c'est difficile de faire des prévisions, et surtout sur les tourismes internes. Les pouvoirs publics incitent beaucoup les Français à rester en France, à ne pas aller à l'étranger, d'une part pour ne pas risquer de revenir avec la pandémie, si toutefois il y a des pays qui ont été moins regardants, et d'autre part parce que effectivement, étant donné qu'on a une diminution importante des flux des touristes étrangers, c'est le moyen le plus simple pour essayer de faire repartir un petit peu les tourismes locaux. Mais cela sera néanmoins une année très compliquée et avec des pertes d'environ 70% du trafic par rapport à l'année dernière.
D'accord. En tout cas, c'est un débat qui intéresse nos téléspectateurs qui ont réagi sur la page Facebook de VOA Afrique. Nous avons Kevin Kanyinga à Kinshasa qui dit « Je pense qu'on doit apprendre à vivre avec le virus. Malgré le confinement, la pandémie continue à se propager. Donc je pense qu'il faut juste réduire le nombre de voyageurs. » On a Archiduc Théodore à N'Djamena qui dit « La maladie de Covid-19 a évidemment engendré des pertes énormes, mais la reprise doit se faire lentement, avec prudence, pour ne pas propager la contamination. » Et puis Jonathan Corley Mosempo à Kinshasa, il écrit « La reprise des vols va nous plonger un peu plus dans l'embarras. Ils ne doivent pas aller beaucoup trop vite pour libérer l'espace aérien africain. » Voilà quelques-unes des réactions de nos téléspectateurs. Un mot avant d'aller en pause sur ça?
Je ne pense pas qu'il faille apprendre à vivre avec la pandémie, pour la simple raison que la pandémie, ce n'est qu'une maladie et que petit à petit, j'espère qu'on va trouver un vaccin qui va nous permettre de l'endiguer, de ne pas avoir ce risque. En revanche, je pense que c'est une attitude, et c'est ça qu'on prône chez Respire, c'est une attitude différente qu'il faut apprendre.
Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Seconde partie de Washington Forum. La Tanzanie, à l'instar de plusieurs pays africains, a décidé de rouvrir ses frontières pour sauver l'industrie du tourisme. L'annonce a été saluée par de nombreux membres de ce secteur à l'arrêt depuis le début de la pandémie. Les explications de Dilidico.
L'an dernier, le parc national de Mikumi en Tanzanie a reçu environ 50 000 touristes, dont 40% venus de l'étranger. Dès mars dernier, la pandémie de coronavirus a mis un frein au tourisme étranger lorsque les vols internationaux ont été suspendus et les parcs fermés. Le parc de Mikumi a rouvert ses portes et timidement, les visiteurs reviennent. Mais pour l'instant, ces visiteurs sont essentiellement des locaux. Nous sommes venus à Mikumi pour changer d'air. couper court au confinement et reprendre les activités pré-coronavirus. Mes camarades motards et moi sommes là pour respirer l'air de la campagne pendant le week-end. Dès le mois de mai, le président John Magufuli a déclaré que la Tanzanie avait vaincu le virus. L'annonce a aussitôt été rejetée par les experts de la santé et les pays voisins. Le Kenya continue de détecter tous les jours des dizaines de camionneurs tanzaniens atteints de coronavirus grâce aux tests réalisés à la frontière. De leur côté, depuis le mois d'avril, les autorités tanzaniennes refusent de donner une estimation chiffrée du nombre de contaminations. En Tanzanie, le nombre de cas de coronavirus, d'hospitalisation et de décès a complètement baissé au cours des dernières semaines. C'est donc le bon moment pour rouvrir le pays, car nous avons mis en place toutes les mesures nécessaires pour prévenir et contrôler la propagation du COVID-19 en Tanzanie. Mais dans l'industrie touristique tanzanienne, tout le monde n'est pas du même avis. Certains voyagistes disent que le manque de transparence du gouvernement sur le nombre d'infections pourrait dissuader les visiteurs étrangers. Il y a de nombreuses inquiétudes car les clients dont nous dépendons sont ceux venant de l'extérieur. Comme vous le savez, le tourisme local ne génère pas suffisamment de profits pour maintenir à flot les personnes travaillant dans ce secteur. En Tanzanie, l'industrie du tourisme représente plus de 17% du produit intérieur brut. S'il est vrai que la réouverture de la Tanzanie aux touristes pourrait aider le pays à atténuer l'impact de la crise sanitaire sur l'économie, procéder de manière trop rapide pourrait donner lieu à davantage de problèmes à long terme.
Voilà, merci Dili Diko. Et donc, je rappelle nos invités de cette émission. À Sali, au Sénégal, nous avons Boubacar Sabali, président du syndicat d'initiative et de tourisme de Thiès Sali. À Paris, Fabio Cassili, fondateur de l'association Respire le tourisme de demain. Monsieur Sabali, si les touristes ne reviennent pas en grand nombre, comme vous l'espérez, comment allez-vous combler ce vide? Est-ce que ce n'est pas peut-être l'occasion de développer le tourisme local et inter-Afrique?
Alors, nous n'avons jamais abandonné le tourisme local, qui est constitué d'environ 6 segments. Le segment le plus important, c'est le segment séminaire. Compte tenu des protocoles de distanciation, les séminaires, nous ne risquons pas de les avoir dans bientôt. L'autre segment, c'est les amicales des sociétés qui venaient passer des vacances. Là, évidemment, nous pensons que ce segment ne risque pas de se développer si tôt. L'autre segment le plus important, ce sont les courriers de vacances à cette période. Et du fait du prolongement de l'année scolaire, nous risquons également de ne pas avoir cette clientèle. Il ne nous resterait plus la clientèle séjour, la clientèle pique-nique et certainement la clientèle corporate. Nous ne pourrons bien sûr que nous contenter de cela en espérant que très rapidement la situation va s'améliorer pour ensuite envisager de développer sur le clientèle séminaire et cette clientèle hybride, c'est-à-dire les amicales de société. Par contre, la difficulté au niveau de la clientèle régionale, c'est les peines de transport. L'aérien d'abord coûte très cher et les vols ne sont pas assez réguliers. Et à part l'aérien, il n'y a pas de moyens de transport. Et c'est très handicapant pour développer le tourisme interrégional. Nous le faisons un peu avec certainement des Nigériens, des Maliens, des Guinéens, mais disons que c'est encore très timide pour espérer ce que nous n'avions pas pris des mesures adéquates pour faire venir cette clientèle-là, à cause de la pandémie, tout simplement, cette clientèle puisse envisager de capturer cette clientèle-là. D'autant que ces pays sont également concernés comme nous par la pandémie, donc sortir, aller à l'étranger, ce ne serait certainement pas la première idée qu'ils prendront. Donc c'est une perspective, mais c'est une perspective qui devra se développer dans le temps. Et nous ne pensons pas que ça puisse, à court terme en tout cas, être développé.
D'accord. Et Fabio Casselli, votre organisation milite pour un tourisme plutôt centré sur l'écologie, hein, l'enjeu écologique. Le tourisme au sortir de la pandémie, comment est-ce que vous le voyez?
Je pense que, alors oui, l'écologie et l'éco-responsabilité est un point important. Pour revenir à ce qu'il disait une des personnes qui avait commenté sur votre page de Facebook tout à l'heure, je ne pense pas qu'il faille changer les choses profondément dans le sens de dire que rien ne va repartir comme avant, etc. En revanche, il faut prendre conscience de ce qui s'est passé et changer nos habitudes. Avoir un peu plus de respect pour l'environnement, avoir plus de respect pour nous-mêmes, même dans nos usages, et donc faire en sorte de respecter les règles que simplement que la Terre nous a dictées, les règles de vie, les règles de bon sens aussi quelque part, et donc oui, repartir vers le tourisme, c'est possible. Il faudra du temps, il faudra de l'organisation, mais effectivement, il faut surtout, voilà, beaucoup d'amour et beaucoup de respect pour notre terre et pour la nature, et faire en sorte de limiter les émissions de CO2, essayer de faire un tourisme aussi qui soit plus respectueux des populations locales. Donc voilà, tout ça va dans le sens d'une prise de conscience à la fois de la part des professionnels qui doivent quelque part informer et éduquer les clients et à la fois des gouvernements et des clients eux-mêmes qui, une fois sur place, il faut qu'ils prennent des habitudes plus saines et vertueuses.
Alors, M. Sabali, Fabio Casselli l'a évoqué. Aujourd'hui, le tourisme et l'environnement sont très liés. Le Sénégal est-il bien placé dans le domaine, sachant que, par exemple, la station balnéaire de Sali, où vous êtes, est confrontée à un problème d'érosion côtière?
Alors, le tourisme a toujours été lié avec la nature. Hein. On a connu le tourisme d'abord. Le groupe d'entourateur britannique qui a déposé le bilan il y a un an, qui avait déjà commencé d'abord par des visites en montagne. Et c'est parti comme ça, et ensuite ça s'est diversifié. Donc la nature a toujours été un des moteurs du tourisme. Est-ce que le Sénégal est armé? La situation actuelle, je dirais très peu, mais c'est un atout indéniable pour développer le tourisme. Et avec l'érosion côtière, une destination comme le Sénégal, quand on a l'atout moteur du tourisme, c'est-à-dire le balnéaire est handicapé, comme c'est le cas à Sali, c'est ensuite de promouvoir la destination. Bien qu'actuellement, on a plus des arrangements qui ont arrêté l'érosion. Il reste maintenant la phase de réensablement qui nous pensons que ça va se faire dès l'indication de la pandémie, parce que les bateaux ont déjà été en place. Ça ne prendrait peut-être que 2-3 mois, au trimestre, disons, pour que la situation devienne à peu près normale. Et donc, nous espérons qu'à partir de ce moment où l'année sera. Les plages de Sali sont restaurées. J'espère que le client aura ce qu'il recherchait, c'est-à-dire la plage, le balnéaire, combiné bien sûr à de la découverte. Mais je dirais que le Sénégal gagnerait à diversifier ses possibilités, et notamment l'écotourisme local, notamment la découverte et le culturel. C'est énormément d'atouts que le Sénégal n'a pas su mettre en produit de consommation, et que nous pensons que c'est l'heure de nous voir comment mettre une synergie de produits, de diversification pour augmenter les possibilités d'achat de voyage.
D'accord. Nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet et sur Facebook, sans oublier nos télépartenaires sur le continent. Je remercie toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.